SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le mardi 12 mars 2024. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure en français sur Radio SBS. Comme chaque mardi, nous aurons les actualités, nous aurons le sport, nous reviendrons sur le sommet de l'ASEAN Australie qui se tenait à Melbourne la semaine dernière. Nous aurons une réaction après les images. Vous avez peut-être vu ces images d'enfants aborigènes qui étaient menottés pour avoir nagé dans une piscine. Et nous aurons l'interview de Zaya Zouani, la chef d'orchestre dont l'histoire fait l'objet d'un film au Festival français du film de Melbourne, enfin non, de Melbourne en Australie d'ailleurs. Voilà, c'est tout pour les titres, on passe tout de suite au journal. Oui, le festival n'est pas qu'à Melbourne, il est en Australie apparemment. Alors, les titres de l'actualité pour aujourd'hui, le rapport du gouvernement sur les soins aux personnes âgées propose que les Australiens payent plus, mais exclut un prélèvement pour financer le système. Les propos du pape qui font polémique en Ukraine, même si le Vatican essaye de minimiser leur portance. Et puis, des découvertes incroyables en Nouvelle-Zélande. Et on débute donc ce journal avec le gouvernement qui a déclaré qu'il avait exclu l'utilisation d'un prélèvement ou d'une taxe pour financer le système de soins aux personnes âgées. Et ce, suite à la publication d'un rapport d'un groupe de travail sur le secteur. Ce dernier affirme que le Commonwealth restera le principal bailleur de fonds des services de soins aux personnes âgées et dans l'avenir, à mesure que la population vieillit et que la demande de soins augmente. Il a également recommandé aux retraités d'utiliser le solde de leur pension de retraite pour payer les services de soins, afin de réduire la pression sur les coffres du Commonwealth. La ministre des Services sociaux, Amanda Rithworth, a déclaré à l'émission Today, c'était sur Channel 9, que le gouvernement travaillait sur les 23 recommandations pour trouver le bon équilibre. On l'écoute.
There'll be a lot of work to be done about how we fund a sustainable system going into the future. But I think Australians want to have the confidence, which they haven't had, and that we're working on, that our aged care system, whether that's at home or in an aged care facility, is of high quality and will look after our older Australians.
Voilà donc la ministre des Services sociaux, Amanda Rithworth. Le mois sacré du Ramadan a donc démarré sous les bombes à Gaza. Des dizaines de raids aériens de l'armée israélienne ont eu lieu sur Gaza et également sur Rafah. Devant ce constat, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'exprime sur la situation et demande un cessez-le-feu immédiat. On l'écoute.
Mon appel le plus pressant aujourd'hui est d'honorer l'esprit du Ramadan en faisant taire les armes. Dans le même temps et dans l'esprit de compassion du Ramadan, j'appelle à la libération immédiate de tous les otages. Depuis des mois, les dirigeants appellent à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et à la libération immédiate de tous les otages. Mais les voix les plus pressantes sont venues des familles des victimes de ces guerres, des familles d'otages israéliens qui ont partagé leur tourment et leur angoisse, et des familles palestiniennes qui ont partagé des témoignages déchirants de membres de leur famille tués dans les bombardements israéliens et ont plaidé pour un cessez-le-feu immédiat. Aujourd'hui, je renouvelle aussi mon appel en faveur d'une cessation des hostilités au Soudan pendant le Ramadan. Les combats doivent cesser dans l'intérêt du peuple soudanais qui est confronté à la faim, à l'horreur et à des difficultés indicibles. À Gaza, au Soudan et au-delà, c'est le moment pour la paix.
Et c'était donc Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Je vous le disais en titre, les propos du pape qui continue à faire des vagues en Ukraine. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a dû convoquer hier lundi l'envoyé du Vatican dans le pays pour protester contre les déclarations du souverain pontife qui, je vous le rappelle, avait appelé les Ukrainiens à hisser le drapeau blanc pour entrer dans un dialogue de paix avec la Russie. Situation compliquée donc, les explications avec Anastasia Becchio.
Le nonce apostolique à Kiev a été informé que l'Ukraine était déçue par les paroles du pontife concernant le drapeau blanc et la nécessité de faire preuve de courage et de négocier. De tels appels légalisent le droit du plus fort et l'encouragent à continuer à ignorer les normes du droit international, indique le communiqué du ministère ukrainien des Affaires étrangères. Ça n'est pas la première fois que les déclarations du souverain pontife provoquent le mécontentement en Ukraine. Le pape François a jusque-là évité de désigner la Russie comme pays agresseur et ne s'est toujours pas rendu à Kiev. Du côté de Berlin, les déclarations du chef du Vatican provoquent l'incompréhension. Je pense que certaines choses ne peuvent être comprises que si vous les voyez par vous-même, a estimé pour sa part la ministre allemande des Affaires étrangères qui s'est rendue à plusieurs reprises dans le pays en guerre ces deux dernières années. Annalena Baerbock a souligné dans un entretien à la chaîne publique ARD que si l'Ukraine et ses alliés ne faisaient pas preuve de force maintenant, il n'y aurait pas de paix.
Voilà donc Anastasia Becchio pour RFI. 13h06, un ancien employé de Boeing, connu pour avoir exprimé ses inquiétudes sur les normes de production de l'entreprise, a été retrouvé mort aux États-Unis. John Barnett, qui travaillait pour Boeing depuis 32 ans jusqu'à sa retraite en 2017, dans les jours qui ont précédé sa mort, il avait témoigné dans le cadre d'un procès de dénonciation contre l'entreprise Boeing. En 2019, M. Barnett avait déclaré à la BBC que les travailleurs étaient sous pression et ils avaient délibérément installé des pièces de qualité inférieure sur les avions sur la chaîne de production. Dans une interview accordée au réseau américain TMZ en janvier, M. Barnett avait continué d'exprimer ses inquiétudes concernant les normes de sécurité après qu'un panneau de porte se soit envolé. Vous vous en souvenez peut-être, c'était sur un Boeing 737 lors d'un vol d'Alaska Airlines.
What we're seeing with the door plug blowout is what I've seen with the rest of the airplane. As far as jobs not being completed properly, inspection of steps being removed, issues being ignored.
13h07, je vous le disais en titre, une centaine de nouvelles espèces marines ont été découvertes dans une zone sous-explorée au large de l'île du Sud de Nouvelle-Zélande. Ces découvertes étonnantes ont été faites par une équipe de scientifiques qui sont descendus à près de 5000 mètres dans l'océan pour documenter de nouveaux mollusques, des nouveaux coraux et même des poissons dans le Bounty Throw, une étendue sous-marine de 800 km qui a à peine été examinée auparavant. Les nouvelles découvertes suspectées doivent toutes être soigneusement examinées en laboratoire, bien sûr, et ce pour confirmer qu'elles n'ont effectivement jamais été découvertes auparavant. Mais le directeur scientifique de l'Ocean Census, Alex Rogers, se dit convaincu que ces découvertes seront à la hauteur des espérances.
It looks like we have three new species of eel pouts from the deep sea in the Bounty Trough. We've probably got dozens of new species of mollusks, marine snails. We also have new species of corals. We've even got at least one creature which we're not really sure what it is. So a whole variety of different groups of animals.
Voilà, donc beaucoup de trouvailles et beaucoup de questions pour Alex Rogers de l'Ocean Census, mais faire ça en 2024, c'est tout de même incroyable. La fin de la visite officielle du Premier ministre thaïlandais en France. La Thaïlande, je vous rappelle, est un acteur principal de l'ASEAN qui était en colloque la semaine dernière à Melbourne. On y revient dans quelques instants avec notre vision de la semaine politique. Mais donc, visite en France dans la foulée pour renforcer le soft power de la Thaïlande dans la région. Bilan de cette visite avec Cléa Rogers.
Ces dernières années, malgré l'intérêt accordé par les autorités thaïlandaises à Emmanuel Macron et à la France,
tout n'était pas au beau fixe politiquement et diplomatiquement entre les deux pays depuis le coup d'État militaire de 2014. Mais la rencontre au sommet ce lundi marque un nouveau tournant. Le président français ne s'en cache pas, il veut une plus grande présence stratégique de la France dans la région.
Je suis convaincu que nous pouvons bâtir un agenda ambitieux à la hauteur des enjeux contemporains et j'en veux pour preuve de nombreux points de convergence. Le premier d'entre eux à coup sûr est cette volonté que nous avons en commun de ne pas être pris dans le jeu des puissances en Indo-Pacifique et de se donner les moyens de préserver la liberté de la souveraineté, c'est-à-dire la liberté de prendre des décisions de manière souveraine. C'est cette proximité de vue qui va nous conduire à travailler sur la structure d'un partenariat stratégique.
Avis partagé par le Premier ministre thaïlandais, très preneur de relations avec l'Union européenne pour sortir de la confrontation Pékin-Washington. Il a proposé à la France d'aider son pays à se doter d'une base industrielle de défense et a invité les entreprises françaises à investir dans l'automobile, les transports et les énergies propres en Thaïlande. Il a aussi appelé à la conclusion d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Thaïlande en 2025.
Et c'était Cléa Rogers pour RFI. La famille royale en Grande-Bretagne se retrouve au milieu d'un scandale de relations publiques après la publication d'une photo de Kate Middleton, une photo qui aurait été modifiée. Vous en avez sûrement entendu parler, les explications d'Emeline Vin.
Dimanche soir, plusieurs heures après la publication de la photo de Kate et de ses trois enfants, les agences de presse qui fournissent du contenu à tous les médias retirent l'image de leur flux. La raison de cette mesure rare, le cliché a été lourdement retouché. Toute la journée, sur les réseaux sociaux, les utilisateurs avaient pointé les mains floues, un doigt à l'apparence peu naturelle ou le contour mal dessiné d'un gilet. Face à la polémique ce lundi matin, Kate s'excuse dans un communiqué. « Comme tout photographe amateur, dit-elle, j'expérimente parfois avec les retouches. » Mais l'erreur paraît grossière de la part des maîtres de la communication qui travaillent pour la famille royale. De quoi relancer la machine à complot. Les théories vont d'une photo prise il y a plusieurs mois au divorce du couple, voire à la mort de Kate, maquillée par le palais. Ce lundi soir, Kate est brièvement apparue à l'arrière d'une voiture quittant le palais de Windsor. Mais au-delà des interrogations sur son état de santé, cette polémique remet surtout en question la sincérité et la crédibilité des communications de toute la famille royale.
Et c'était Emeline Vin pour RFI. Coup d'œil météo aujourd'hui à travers le pays. À Perth, il fera 30 degrés. Adélaïde, 33. Melbourne, il fera 24. Un petit peu de répit après tant de chaleur ce week-end. À Hobart, vous aurez 20 degrés. Canberra, il fera 33. Sydney, 31 degrés. Newcastle, vous aurez 32. Brisbane, 30 degrés. Cairns, 32 degrés. Et Darwin, 30 degrés. Rappel des grands titres de l'actualité en ce 12 mars, le rapport du gouvernement sur les soins aux personnes âgées proposé aux Australiens. Il propose que les Australiens payent plus en excluant un prélèvement pour financer le système. Les propos du pape qui font polémique en Ukraine, même si le Vatican essaye de minimiser leur importance. Et on vient de le voir, des nouvelles espèces découvertes, des découvertes incroyables en Nouvelle-Zélande. Pour certainement, on en entendra parler dans les mois à venir. Voilà, court break et on se retrouve dans quelques instants. Journal des sports, et on débute avec du football et les résultats de la Ligue 1 en match avancé de cette Ligue 1. Montpellier est allé battre Nice sur son terrain, donc à Nice sur le score de 2-1. On écoute le gardien de Montpellier, Benjamin Lecomte. Il revient sur cette victoire.
On se doit de gagner, on se doit de prendre des points. On n'est pas du tout dans une situation confortable. Je pense que cette victoire, elle est méritée. Tout le monde a tout donné aujourd'hui. On savait qu'à Nice, ça allait être très compliqué, ça l'a été. Et voilà, félicitations à tout le monde. Et là, le week-end prochain, il y a un nouveau combat contre Paris. On va faire en sorte de tout donner encore. On sait que, entre guillemets, on joue notre survie en Ligue 1. Donc c'est important, je pense, pour le moral et pour la confiance de faire ce genre de prestation, que ce soit pour moi, que ce soit pour les 10 hommes devant moi qui ont tout donné ce soir. Donc voilà, maintenant, on va se reposer et faire une bonne semaine pour préparer Paris.
Benjamin Lecomte, le gardien donc de Montpellier. Dans les restes des matchs donc de cette 25e journée, Lyon a battu Lorient sur le score de 2-0, Lens bat Brest sur le score de 1-0, Metz bat Clermont sur le score de 1-0, Monaco est allé battre Strasbourg en Alsace sur le score de 1-0, le Paris Saint-Germain et Reims font match nul 2-2. On écoute d'ailleurs le capitaine par intérim puisque Kylian Mbappé n'était pas là, capitaine du PSG, donc par intérim, Danilo Pereira.
Notre objectif, c'est toujours de gagner des matchs, mais on sait que la Liga, il y a des matchs difficiles. Et celui-là, c'était un de ces matchs. Non, c'est pas un relâchement, mais c'était un peu l'état d'esprit. Et il y a des fois qu'il y a des matchs après la Ligue Champion, c'est difficile de revenir, mais on essaye toujours, comme je dis avant, on essaye toujours de gagner des matchs. Mais il y a des fois qu'on rate des occasions, qu'on concède des buts facilement. Il y a des fois que ça passe dans les matchs.
Danilo Pereira, donc le capitaine du PSG par intérim. Le reste des matchs, Toulouse a perdu face au Havre 1-0. Match nul entre Lille et Rennes au score de 2-2. Et Marseille qui est allé battre Nantes sur le score de 2-0. Une victoire qui rend l'entraîneur Jean-Louis Gasset, entraîneur de l'OM, plutôt fier de ses joueurs.
Fier de l'état d'esprit. On n'avait pas 90 minutes dans les jambes. On a eu d'autres qualités de solidité et de solidarité qui font plaisir à voir, même si aujourd'hui on n'était pas très fringant.
Jean-Louis Gasset, donc l'entraîneur de Marseille. Au classement, le Paris Saint-Germain est toujours en tête avec 56 points, avec 10 longueurs d'avance devant Brest, donc qui est deuxième, Monaco troisième, Lille est quatrième avec 42 points, et Lens est cinquième avec 42 points. Également en bas de classement, Nantes est 16e avec 25 points, Metz est 17e avec 23 points, et Clermont-Ferrand, le Clermont Foot, donc 18e, lanterne rouge de ce championnat, avec 17 points. On reste dans le football, les petits détours par l'Angleterre et la Premier League, et match au sommet entre Manchester City et Liverpool, un match dans lequel les équipes n'auront pas pu se départager, match nul donc, explication Antoine Grenier.
Les Reds, pourtant dominateurs, n'ont pas fait mieux qu'un nul un partout face aux Citizens. Stones avait ouvert le score pour City et McAllister lui a répondu en seconde période, une rencontre qui était le dernier duel entre les Citizens et Jurgen Klopp, l'entraîneur des Reds qui quittera Liverpool en fin de saison après 9 ans passés sur les bords de la Mersey. Klopp, dont l'objectif ne change pas, un second sacre en Première Ligue et qui a aimé ce match pour le jeu proposé.
Ces matchs contre Manchester City ont été de bons matchs, des matchs sympas, fantastiques même. J'ai croisé ma femme juste après le coup de sifflet final et elle était toute chamboulée. Ça devait être vraiment sympa à suivre des tribunes. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais vraiment ressentir un manque, si j'ai toujours le droit de regarder des matchs de football. Personne ne m'a dit qu'il fallait être entraîneur pour ça, donc ça va, mais c'était un bon match.
Jürgen Klopp, donc l'entraîneur légendaire de Liverpool. Au classement, Arsenal est toujours en tête, ex aequo avec Liverpool, 64 points tous les deux. Alors on fait un détour par la boxe, une fois n'est pas coutume, la défaite de Francis Ngannou face au Britannique Anthony Joshua. Anthony Joshua qui a eu des mots plutôt sympas pour le franco-camerounais Francis Ngannou. On l'écoute.
He's an inspiration, so we wanted to welcome him. We broke bread together.
Francis Ngannou est une inspiration. On a pris ce combat très au sérieux. C'est un grand champion. On n'a donc rien laissé au hasard pour le battre. Ne doute pas un seul instant de ses capacités. En boxe, vous savez, c'est soit l'un, soit l'autre. Il peut revenir, j'en suis sûr. Il ne doit pas quitter la boxe. Il n'a que deux matchs. Il peut encore s'améliorer et faire carrière. C'est à lui de voir.
Donc, Anthony Joshua qui conserve son titre de champion du monde de boxe dans sa catégorie. Allez, on parle de rugby également dans ce journal des sports. Et la France qui se rassure face au Pays de Galles. Une victoire 45-24 avec donc des points du bonus offensif. On écoute le capitaine du 15 de France, Grégory Altrit.
On a travaillé très dur cette semaine. Et on a réussi à retranscrire un petit peu tout le travail de la semaine sur ce match. Donc il y a vraiment une satisfaction. On a été quand même assez réaliste, je pense, à part peut-être 2-3 situations où on marque pas. On a été dans le combat, dans les derniers 40 mètres, gagner les collisions, avancer. Il faut utiliser ça et je pense qu'on a réussi là-dedans.
Grégory Altrit, le capitaine du 15 de France. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans le reste du programme. Vous écoutez le programme en français. Vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite. C'était donc Alain Chamfort avec Sébastien Tellier. Sébastien Tellier qui, je vous rappelle, a représenté la France à l'Eurovision il y a quelques années. Et cette chanson, Whisky Glass, 13h22, on fait une courte pause et on se retrouve tout de suite après ça pour parler de l'ASEAN qui avait lieu à Melbourne, le meeting ASEAN Australie, donc qui était dès la semaine dernière. Revue et analyse de ce qui s'est passé dans ce meeting tout de suite après ça.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
La chronique politique de Patricia Meunier et on revient cette semaine sur le sommet à Melbourne de l'ASEAN. L'Australie et 9 pays d'Asie du Sud-Est se sont rencontrés durant 3 jours. Beaucoup de discussions, dont la sécurité dans la mer de Chine méridionale, ainsi qu'une demande commune d'un cessez-le-feu durable à Gaza. Toutes les précisions à propos de ce sommet sont signées Patricia Meunier.
L'Australie et les 9 pays d'Asie du Sud-Est, regroupés sous le nom d'ASEAN, ont terminé mercredi dernier un sommet de 3 jours à Melbourne. L'Australie marque ainsi le 50e anniversaire de ses liens avec le bloc. Les pays ont appelé à la retenue dans la mer de Chine méridionale. On le rappelle, depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement travailliste australien s'est concentré sur ses relations en Asie du Sud-Est. Il a ainsi signé un partenariat stratégique avec tous les membres de l'ASEAN, à l'exception du Myanmar. Ce dernier n'a d'ailleurs pas fait le déplacement à Melbourne. Le Premier ministre Anthony Albanese a mis en évidence l'importance d'une région Indo-Pacifique stable. On l'écoute.
We believe in an Indo-Pacific region that is open, stable and prosperous. And where sovereignty is respected and differences are settled through dialogue and agreed rules and norms.
Parmi les nouveautés, le sommet a annoncé la création d'un fonds d'investissement de 2 milliards de dollars, destiné à la transition vers des énergies propres. On écoute le directeur du Centre de politique climatique et de sécurité de l'Institut australien de stratégie politique, le docteur Robert Glasser.
$2 billion is really funding to support Australian industry to engage in ASEAN countries, predominantly to focus on the clean energy transition to support that. I think that's a good thing. Australia is underinvesting in this hugely important, rapidly growing region on our doorstep. We should be engaging much more directly in, but there are a number of challenges and risks, and this financing kind of the government paying for those risks to enable those investments to happen.
Sans surprise, les conflits mondiaux ont dominé l'agenda des dirigeants pendant le sommet. Les discussions ont montré que le consensus n'est pas encore atteint dans tous les domaines au sein de l'ASEAN. Les pays ont une approche différente vis-à-vis de la Chine. Impossible d'avoir une ligne commune en ce qui concerne Beijing. Si les Philippines ont une approche plus critique de la Chine, la Malaisie a adopté un ton très différent. Son pays n'a pas de souci avec Beijing. Pour le Premier ministre Anwar Ibrahim, un conflit dans la mer de Chine méridionale est peu probable. La professeure Beck Streeting de La Trobe Asia à l'université de La Trobe à Melbourne affirme pour sa part que la Chine reste une issue dans la région Indo-Pacifique.
ASEAN is a very consensus oriented institution. So it tries to make decisions based on consensus, but there are areas where it has been difficult to reach that kind of consensus because the countries within ASEAN don't necessarily hold the same approach to China.
La ministre des Affaires étrangères Penny Wong a profité du sommet pour annoncer un financement supplémentaire pour les partenariats maritimes dans la région.
Destabilizing, provocative and coercive actions including unsafe conduct at sea and in the air and militarization of disputed features. We know that military power is expanding, but measures to constrain military conflict are not, and there are few concrete mechanisms for averting it.
Le sommet a débouché sur la déclaration de Melbourne qui appelle à la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Elle omet notamment certains termes concernant la Chine que l'Australie souhaitait initialement inclure. Les nations présentes au sommet ont aussi appelé un cessez-le-feu immédiat à Gaza, tout en appelant la libération des otages détenus par le Hamas.
Le ciel est orangé, des feuilles tombent sur le sol, disons qu'elles sont rangées. Ça me fait penser à toi.
c'était Roméo Elvis et cette chanson Orangée qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de mars. Sélection musicale que vous pouvez retrouver sur Spotify. Nous avons une playlist sur Spotify. Il est 13h30. On va faire une courte pause et tout de suite après, je vous propose un entretien fait par notre collègue Bertrand. Entretien avec Anna McGlane. Elle revient sur l'affaire des enfants aborigènes ligotés puisqu'ils avaient nagé dans une piscine. C'est dans les territoires du Nord. Bertrand vous explique tout ça. Réaction tout de suite après cette page publicitaire.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio. Vous êtes avec Radio SBS en français.
L'Australie est secouée par une histoire de racisme envers les aborigènes après que des images ont commencé à circuler montrant des enfants aborigènes âgés entre 6 et 7 ans, ligotés et en état de détresse. Les faits auraient été commis par un contractuel qui, se rendant sur une propriété privée pour y effectuer des réparations, a découvert les trois enfants en train de se baigner dans la piscine en l'absence des propriétaires des lieux. L'homme, un habitant de Broome en Australie occidentale, a été inculpé par la police pour ces faits. Je me suis entretenu avec la professeure Hannah McGlade, une spécialiste des droits de l'homme à l'Université de Curtin d'Australie occidentale et avocate. Pour Hannah McGlade, l'incident de Broome est le symptôme d'un racisme généralisé. Elle souligne par ailleurs des manquements de l'Australie quant au respect des instruments internationaux pour la protection du droit des enfants. On l'écoute.
It's very shocking, isn't it? And it's going through the Aboriginal communities across the country, actually. Like lightning because of the video footage that has been shared and showing that they really are very young children, I think 5, 6, 7 years or about, actually tied up with Ziploc, you know, crying and screaming with a very big non-Aboriginal man walking in a threatening manner in front of them. He's clearly restrained them in this unlawful way.
What are the, from a legal perspective, what are likely the legal consequences that this can call him a gentleman, will be faced with?
The West Australia Police have charged him with 3 counts of assault. So he will face court with assault charges. Now, the maximum penalties, I believe, could be up to 18 months imprisonment or a fine. So that will be up to the magistrate. In this case, he has... you know, he appears to have engaged in racially motivated offence. Now, this is recognised under the criminal code and it is seen as an aggravating circumstance, but there's no indication that the police have factored this into the charging. I do think they should, because we don't see non-Aboriginal children being treated in such a violent and abusive manner. It's a very serious assault on the children. Actually, I'm looking at the maximum penalty the magistrates can impose is a term of imprisonment of 18 months and a fine of $18,000. So we certainly don't want to see this person getting a slap on the hand. This is vigilantism directed at very young, vulnerable children and no doubt has been extremely traumatic for them.
What needs to be done to tackle this kind of racism more broadly? Even the Australian government needs to do something at this day and age. It's just disturbing to see this happening. What needs to be done on a higher level other than
We do need to take racism seriously in Australia, and our governments have responsibilities under the UN Convention on the Elimination of Race Discrimination. But unfortunately, our efforts, you know, the efforts of government are too often quite tokenistic. They're really not tackling the racist sentiment. And in this case, actual racist violence enacted on young children. And, you know, what had they done wrong? Apparently, they were swimming in a pool. We have climate change and Indigenous people and children are particularly affected by climate change. Indigenous people are affected by poverty. And, you know, swimming pools do cost money. They need to be made free to people, low-income people of Aboriginal and non-Aboriginal inclusive. We've got to be responsive to community needs. West Australia is actually a very rich state And to see Aboriginal children, you know, who wanted to cool down on a very hot day, no doubt, being tied up and traumatised in such a horrible manner, it is shocking and alarming, and it is a wake-up call to all of Australia, it should be, that our children bear the brunt of ugly, violent racism in this country.
Being violent of racism just because of a lack of amenities for them to be able to cool down. But also when I was talking about the federal government's implication and what needs to be done, Australia still hasn't ratified the optional protocol attached to the Convention on the Rights of the Child, the additional protocol.
That's right. They haven't. You know, they haven't. They are not upholding the Convention on the Rights of the Child. Neither the federal or the state governments are respecting a binding international treaty that concerns children. You know, as I said, there's hypocrisy and there's lack of commitment to human rights. We're breaching the convention in a number of respects. We are now incarcerating children, mainly Aboriginal, in adult facilities, in prisons. And in regional Australia, you know, Aboriginal kids particularly have been locked up in police stations for a long time now. Now, that's prohibited by the UN Treaty on Child Rights. And, of course, the UN Treaty body has told Australia to raise the age from 10 years to 14 as minimum. And our governments have ignored that advice, blatantly ignored it. The optional protocol instrument is very important because it allows children whose rights are being violated by their government and its authorities to take that matter to the UN committee for a determination, for a decision. And that's critically important, but our government says they simply won't sign the optional protocol to the Convention on the Rights of the Child.
How concerning is it that very young children were involved in the alleged incident that is just still going viral on social media?
Well, I think it shows just how serious a problem racism is when young children can be attacked by an adult, assaulted in a very cruel manner, inhumane manner, as has happened. We have the video evidence and the footage circulating, and we can see that. So, you know, that is very worrying. And for the children themselves, no doubt they are traumatised by what's happened. We can see them crying, and they're definitely anguished during that, as any young children would be experiencing that kind of treatment. And, you know, we have to, you know, really hope that this is, that the trauma impacts are able to be resolved. They will need counselling from this. You know, this is just really very worrying on so many levels, from the failure of our government to be serious about Indigenous people's rights and addressing racism, to, you know, the actual personal impacts on Aboriginal children who may have already experienced trauma in their life, to be the victims of violence and racism at such a young age. It's quite shocking.
Well, Professor McGlade, thank you very much for taking the time to talk to us and give us some insights into this very disturbing incident.
Thank you.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone. SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Quand au fond du camp, que la vie coupe mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable, que mes forces me quittent, que je me cache sous la terre. Sé justo, tenaz y sincero, sé solo tú, sé solo tú.
C'était Olivia Ruiz, sa chanson Le Sel, qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de mars. Olivia Ruiz, que j'ai eu la chance d'interviewer il y a quelques temps en Nouvelle-Calédonie. Elle était vraiment super géniale. L'interview est disponible quelque part dans notre feed. Donc Olivia Ruiz, présente dans le programme de Radio SBS. 13h42, on va parler maintenant à Zaya Zouani. Marianne Murat lui a parlé ce week-end. Zaya Zouani, chef d'orchestre incroyable, qui fait partie, qui a un film qui fait partie donc du Festival du film français. Marianne va vous expliquer tout ça.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Nous recevons sur les ondes de Radio SBS Zaya Ziwani, chef d'orchestre française de 45 ans en visite en Australie. Zaya, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venue ici donc en Australie, vous commencez par Melbourne, mais vous allez aussi aller à Perth, à Brisbane, à Sydney, dans le cadre du French Film Festival, puisque vous assistez à la diffusion du film Divertimento, qui est consacré à votre vie. On va en parler dans un instant, mais avant de parler du film, je voudrais justement parler de votre vie. Vous êtes une chef d'orchestre, on l'a dit, aujourd'hui mondialement connue et reconnue. Mais le chemin a été semé d'embûches. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Merci de votre invitation. Et en effet, c'est vrai que déjà par tradition, dans le milieu de l'orchestre symphonique, les femmes ont souvent eu des difficultés à trouver leur place. Et donc surtout, la personne qui incarne l'autorité, le chef d'orchestre. Donc c'est vrai que quand il y a 25 ans, j'ai commencé à faire ce métier, je voyais pas du tout de femmes diriger, et notamment diriger les grands orchestres. Et donc, je me suis vite rendu compte que si je voulais justement réaliser ce rêve de devenir chef d'orchestre, il fallait que je me crée mes propres opportunités. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer l'orchestre Divertimento. Et puis, avec cet orchestre, j'avais aussi envie, évidemment, de diriger les grandes œuvres, mais je me rendais aussi compte qu'il y avait plein de sujets sur lesquels ça serait intéressant de travailler, de m'engager en tant que chef d'orchestre, notamment à l'accès à la culture. Donc cet orchestre Divertimento, rapidement, il a été s'installer en Seine-Saint-Denis, dans un département à côté de Paris, assez populaire. Et puis on y a donné beaucoup de concerts. Et puis après, ça s'est, le rayonnement s'est étendu sur toute la France, en milieu rural, en milieu évidemment urbain, en milieu carcéral aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, je fais vraiment ce métier comme je souhaitais justement le faire et comme je souhaite le faire aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça fait bouger les lignes, et donc c'est difficile quand on fait bouger les lignes. J'ai souvent rencontré des résistances dans le milieu musical et parfois encore maintenant. Donc c'était pas un chemin facile à entreprendre jusqu'à encore aujourd'hui.
Pantin, c'est là où vous avez grandi dans les années 80. Est-ce que vous avez ressenti qu'il était plus difficile de vouloir devenir chef d'orchestre, un milieu très fermé, très élitiste, très conservateur, en étant une femme, ou est-ce que c'était plus difficile en étant fille d'immigrés ?
Moi, je pense que c'était plutôt un ensemble de choses. C'était plus difficile parce que j'avais un parcours très différent de tous les autres chefs d'orchestre. Et encore, à cette époque, quand j'ai commencé, que j'observais les chefs d'orchestre, je voyais plutôt des hommes blancs, plutôt assez âgés, parce que c'était aussi pendant longtemps un métier qu'on commençait en deuxième partie de carrière. Donc moi, j'étais jeune, j'étais une femme, issue de la diversité, dans un quartier populaire. Donc forcément, je ne ressemblais pas du tout au parcours habituel et traditionnel des chefs d'orchestre. Donc oui, c'est pour ça que très vite, moi, je me suis rendu compte que si jamais je prenais pas mon destin en main, j'y arriverais pas. Et en même temps, toutes ces caractéristiques font que c'est en même temps la personne que je suis. Donc j'ai jamais essayé de ressembler aux autres chefs d'orchestre, de ressembler un petit peu à la norme que l'on attendait. Et donc c'est pour ça que j'ai défendu aussi une vision de la musique, une vision de la culture, une vision du métier de chef d'orchestre, qui était celui qui me ressemblait, cette vision du chef d'orchestre que j'avais envie de devenir, de la chef d'orchestre que j'avais envie de devenir. Et voilà, et je crois qu'aujourd'hui, c'est un pari qui réussit.
On parle du fait que vous êtes une femme issue de la diversité, mais il y a aussi l'âge. Vous aviez 19 ans quand vous avez créé Divertimento. Comme vous l'avez dit, c'est pas un deuxième stade de carrière, c'était votre premier. On a peut-être pu vous reprocher la jeunesse, le manque d'expérience.
Oui, ça c'est vrai, et c'est vrai que pendant longtemps on pensait que pour être un bon chef d'orchestre, il fallait avoir de la maturité humaine et de la maturité artistique. Moi j'ai commencé, j'avais 16 ans, et donc évidemment que la maturité, l'expérience c'est important, mais il y a aussi d'autres qualités. Et moi, mes qualités à l'époque, c'était la jeunesse, c'était l'énergie, c'était l'engagement, c'était le fait aussi d'avoir des idées différentes, mon parcours singulier. Donc en fait, j'ai essayé de compenser par plein d'autres qualités, par mon inventivité, mon audace et ma créativité.
Vous ne vous contentez pas de diriger un orchestre symphonique Divertimento, c'est son nom, on l'a dit. Vous en avez aussi fait une académie pour les jeunes. Vous jouez dans des grandes salles de spectacle réputées, mais pas que. Vous continuez à jouer en banlieue, vous allez jouer à la campagne, en province, vous jouez même dans le milieu carcéral. Divertimento, vous l'avez dit, c'est à votre image. Vous faites ça pourquoi ? Pour ouvrir les portes plus facilement que celles qui étaient fermées à vous quand vous étiez plus jeune ?
Oui, complètement. Et puis j'ai vu en effet le bénéfice dans mon cas personnel, dans mon parcours, d'avoir eu accès à la culture. Et moi, j'ai eu cette chance d'avoir grandi dans une famille où mes parents, justement, nous ont permis d'écouter de la musique, de lire, d'aller aux expositions, de voir des musées. Et donc, aujourd'hui, je suis convaincue que la culture, elle permet justement à beaucoup de jeunes de se révéler, de découvrir leur potentiel, leur talent, de les ouvrir au monde et de développer leur esprit critique. Et donc, c'est vrai que cette chance que j'ai eue, moi, dans le cadre de la famille, si d'autres ne l'ont pas, ni dans la famille, ni à l'école, en tant qu'artiste, moi, je trouve que c'est important justement de porter aussi cette responsabilité et de s'engager aussi pour les autres, de transmettre. Donc je suis assez convaincue de ça en effet.
Oui, la famille c'est très important pour vous. Vos parents, on l'a dit et vous l'avez dit, sont mélomanes. Vous avez une grand-mère qui vous a toujours soutenue, pas spécialement du côté de la musique, mais plus du côté de la combativité, qu'en tant que femme on peut tout faire dans la vie. Vous avez une sœur jumelle qui est avec nous en studio aujourd'hui, qui est violoncelliste, soliste de chambre. Et vous avez un petit frère, Mehdi. Cette famille a toujours été très importante pour vous en tant que femme, pour vous en tant que chef d'orchestre ?
Évidemment, la famille, c'est ce qui aussi nous construit. C'est aussi dans le cadre familial qu'on a eu accès à la musique, qu'on a aussi construit notre force, qu'on a puisé dans cette force justement aussi la persévérance. Et nos parents nous ont toujours aussi transmis de très belles valeurs en disant, dans la vie, il faut rêver grand. Par contre, il faut travailler, il n'y a pas de sujet. Et donc, ils nous ont accompagnés, ils nous ont toujours fait confiance. Et je trouve que c'est important. Et quand on a des parents qui nous font confiance, on se fait aussi confiance à soi-même par la suite. Cette force en fait de la famille qui est déjà un premier collectif, moi je sais que ça m'a beaucoup aussi inspirée quand j'ai voulu créer l'Orchestre Divertimento, de retrouver quelque part cette force dans un orchestre avec la solidarité, avec le partage. Alors c'est jamais simple, même dans le cadre de la famille, mais par contre je trouve que quand justement on arrive à avoir cette force du collectif, on peut accomplir plein de grandes choses ensemble, et c'est avant tout dans la famille qu'on a puisé ça chez nous.
Ce que votre famille vous a inculqué, ou en tout cas l'aide que vous avez reçue dans ce schéma familial, vous le mettez aujourd'hui en place en tant que mère, en tant que chef d'orchestre avec les jeunes qui intègrent votre ensemble. Est-ce que, à 45 ans, vous avez le sentiment que le plus dur est derrière vous ?
J'ai le sentiment d'avoir accompli beaucoup de choses et d'avoir aussi accompli beaucoup de choses, parfois dans la difficulté et la douleur, ça c'est sûr. Parce que quand on fait bouger les lignes, c'est difficile. On rencontre des résistances, on rencontre des personnes qui n'ont pas du tout envie que parfois les choses changent. Mais par contre, j'ai pas du tout l'impression d'avoir accompli en tout cas tout ce que j'avais à accomplir. Et il y a encore un chemin énorme, et je sais qu'il y a plein de sujets sur l'égalité des chances, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'inclusion, la lutte contre le racisme, l'ouverture sur le monde, l'accès à la culture. Enfin voilà, il y a encore plein de sujets sur lesquels il y a tellement de chemin à faire. Et moi, j'ai envie aujourd'hui, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs, que mon métier d'artiste, il porte un sens, il porte un engagement. Et voilà, c'est aussi tous ces sujets que j'ai envie de continuer à faire avancer grâce à la musique.
Vous pensez que le chemin est encore long ?
Ah oui, il y a encore beaucoup de chemin en effet, oui. Parce que sur un métier comme celui de chef d'orchestre, il y a moins de 4% des chefs d'orchestre qui sont des femmes. En France, par exemple, les principaux orchestres, tous les orchestres nationaux, pendant 25 ans, il n'y avait aucune femme à la tête de ces orchestres. Ce sont des orchestres qui sont financés par les fonds publics. Aujourd'hui, il y en a très très peu. Donc on se rend compte que bien sûr qu'il y a un chemin énorme à faire. Et si une jeune fille vient de me demander aujourd'hui, oui Zaya, j'ai envie de devenir chef d'orchestre, parfois, évidemment que je vais l'encourager, parce que moi j'ai détesté qu'on me décourage quand j'étais jeune. Et en même temps, c'est encore une réalité que de lui répondre, faut que tu saches aussi lever beaucoup d'argent pour que tu crées ton propre orchestre. Et je trouve que de nos jours, en France, au 21e siècle, ça ne devrait pas être une réponse. Et donc, il y a beaucoup de chemin à faire. Et puis, on parle beaucoup des inégalités en France sur les sujets d'accès à la santé, d'accès à la justice, à l'école, les effectifs de police. Mais la culture, je trouve que c'est aussi un des sujets les plus inégalitaires en France, parce qu'il y a encore beaucoup de territoires où on a difficilement accès à la culture et à la musique en particulier. Et donc, c'est ce sujet de lutter contre ces inégalités-là qui nous concerne beaucoup avec Fetouma, avec les musiciens de mon orchestre, moi-même. Et donc, je pense qu'on a encore beaucoup de travail sur certains sujets en France, en effet.
Divertimento, c'est votre orchestre symphonique, donc c'est son nom, mais c'est aussi désormais le nom du film qui vous est consacré, à vous, à votre histoire, à celle de votre famille, de votre sœur jumelle Fetouma. Ça fait quoi d'avoir un film qui nous est dédié ?
C'est déjà une grande fierté, bien évidemment, beaucoup de plaisir. Après, c'était assez inattendu. Mais quand ça s'est présenté, je me suis dit, c'est une formidable aussi opportunité pour raconter notre histoire justement avec toutes ces difficultés, ces résistances, et puis permettre aussi à des jeunes de voir aussi qu'on peut y arriver malgré la difficulté, malgré les résistances. Et quand j'étais jeune, parfois j'avais du mal à me projeter parce que je voyais pas de femme chef d'orchestre. Et ben là, si le film, c'est un outil en plus pour justement montrer à des jeunes qu'en effet, on peut être jeune et on peut devenir être une femme et on peut devenir chef d'orchestre. Moi, je trouve ça formidable parce que c'est notre histoire, mais c'est aussi l'histoire de plein de gens. Et voilà, et je trouve ça important aussi de parler aux personnes qui se sentent parfois un peu exclues ou qui se sentent parfois un peu isolées, bien sûr qu'il y a de la richesse et il y a de la force chez tout le monde, et que c'est pas parce que on vient pas d'un milieu aisé ou que on n'est pas le meilleur violoniste du monde qu'on n'a pas de valeur, au contraire. Et donc c'est un très beau film et qui est aussi un très bel outil aussi pédagogique pour les jeunes, je trouve.
Vous le trouvez juste, s'il vous plaît?
Oui, plutôt assez juste, en effet, mais ça, c'est un travail qu'on a mené avec Fetouma aussi, avec les équipes du film, la réalisatrice Marika Simon-Suanchard. Ça nous tenait à cœur de pas faire un film à n'importe quel prix. On voulait pas qu'il y ait des clichés, qu'il y ait des idées qui soient fausses et qui montrent aussi peut-être notre famille, notre quartier, notre ville, notre parcours sous un angle pas toujours très valorisant. Et on voit trop souvent au cinéma les familles issues de l'immigration sous l'angle des difficultés sociales, ces quartiers sous l'angle de la délinquance, de la violence. Il y a plein d'autres choses qui se passent. Et ça, il faut qu'on en parle aussi. Même si parfois, évidemment, ça reste une fiction. Il y a eu des petits aménagements sur la temporalité, sur certains aspects. Mais il reste quand même très juste et très à l'image de ce qu'on a vécu et de la famille dans laquelle on a grandi.
Zaya et Fetouma Ziwani, merci beaucoup d'être venus nous rencontrer en studio.
Merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Très bel hommage aux mamans du monde entier avec Gilles Kaplan et son chanson Daronne. Si vous ne savez pas pourquoi on dit Daronne, Daronne c'est un mot en argot, peut-être parisien, voire français, qui désigne donc les mamans. Mais c'est un mot très, très gentil en fait. Voilà, 13h58, on va faire un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Et en ce 12 mars, dans l'actualité, un rapport du gouvernement sur les soins aux personnes âgées qui propose que les Australiens payent plus mais excluent un prélèvement pour financer le système. Les propos du pape qui font polémique en Ukraine, même si le Vatican essaye de minimiser leur importance. Et on l'a vu dans le journal un peu plus tôt, des découvertes incroyables en Nouvelle-Zélande, des nouvelles espèces qui feront très certainement parler d'elles à plus de 5000 mètres de profondeur, donc au large de l'île du Sud de Nouvelle-Zélande. Voilà, on arrive à la fin de notre programme. Merci de nous avoir écoutés en cette heure de français sur Radio SBS. Prochain rendez-vous avec le programme, c'est jeudi à 13h et bien entendu samedi et dimanche à 13h également. Notre site internet sbs.com.au/french est là pour vous tous les jours à toute heure de la journée. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. On se retrouve jeudi. À bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.